Vous écoutez On lit pour vous.
Consultation des membres indemnisés par la SAAC. Un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay, organisatrice communautaire, volet défense des droits, paru dans la revue Paraquad numéro 170, été 2026. Le 25 février, près de 50 membres ont pris part à une consultation visant à entendre leurs expériences et leurs réflexions sur les liens qu'ils entretiennent avec la Société d'assurance automobile du Québec, SAAC, et la couverture qui est faite de leurs besoins. Plusieurs questions ont été abordées. Elles concernent le service à la clientèle et le traitement des demandes, l'adaptation du domicile et du véhicule, l'intégration au travail et aussi l'harmonisation des indemnités de revenus, des rentes et du système d'imposition. De plus, l'octroi de l'aide personnelle à domicile, des services de santé ainsi que l'accès à des aides techniques sont aussi des problématiques récurrentes et en croissance, considérant le vieillissement de cette clientèle. Toutes les informations que nous avons recueillies seront compilées et accompagnées de recommandations que l'équipe de défense des droits présentera prochainement aux décideurs concernés de la SAAC. Cette démarche s'inscrit dans une série d'actions visant à corriger les incohérences avec la réglementation en vigueur et à bonifier celle-ci dans le sens d'une meilleure couverture pour les indemnisés. Nous envisagerons par la suite les stratégies à mettre en œuvre pour obtenir des gains significatifs et durables. Si vous êtes intéressé à soutenir notre équipe dans ces démarches auprès de la SAAC, contactez Ariane Gauthier-Tremblay à l'adresse agauthier-tremblay@moelleepinière.com. C'était « Consultation des membres indemnisés par la SAAC », un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026.
Quelle est la cause des cauchemars? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 21 juin 2026 dans la presse. Un lecteur, Gilles Jaudoin, demande « Quelle est la cause des cauchemars? Est-ce que les produits laitiers pourraient être une cause? » Il y a deux grandes théories pour expliquer les cauchemars. Selon William Kelly, spécialiste du sujet à l'Université du Verbe incarné au Texas, en anglais, University of the Incarnate Word. Certains avancent qu'il s'agit de côtés négatifs de la vie éveillée, qu'on ignore pendant le jour, mais qui envahissent nos nuits, dit M. Kelly. Sinon, il y a la théorie qu'il s'agit de manifestations de traumatisme. Les deux théories peuvent sembler similaires, mais le psychologue de San Antonio note que 70% des gens qui ont un diagnostic de trouble de choc post-traumatique ont des cauchemars toutes les semaines. C'est une proportion 10 fois plus importante que la moyenne de la population. Souvent, les gens qui ont un traumatisme ont le même cauchemar nuit après nuit. Il y a une qualité différente des cauchemars liés au traumatisme par rapport aux cauchemars dont tout le monde va faire l'expérience. Est-ce que certains aliments augmentent le risque de cauchemar? Il y a plusieurs études sur le sujet. Par exemple, pour les produits laitiers, mais ils ont des résultats inégaux, dit M. Kelly. Si l'alimentation ou la digestion jouent un rôle dans les cauchemars, c'est certainement un rôle mineur. La théorie voulant que les cauchemars soient le miroir d'une digestion difficile était à la mode à l'époque de Freud, mais le père de la psychanalyse considérait plutôt qu'ils étaient le miroir de l'inconscient, note M. Kelly. Mais la théorie de la digestion a la vie dure. L'étymologie de cauchemar fait référence à l'oppression et à un fantôme. Dans le Christmas Carol de Dickens, le revenant est au départ attribué par Scrooge à une indigestion. Est-ce que les enfants qui ont plus de cauchemars vont aussi en avoir davantage à l'âge adulte? Les enfants ont beaucoup plus de cauchemars que les adultes, mais il ne semble pas y avoir de facteur de prédiction pour les cauchemars à l'âge adulte, dit M. Kelly. Entre 20 % et 30 % des enfants rapportent au moins un cauchemar important par mois, selon lui. En tout, un adulte sur 25 et un enfant sur 20 ont un niveau de cauchemar assez intense pour être considéré comme un diagnostic psychiatrique, note le psychologue texan. névrose. Quelles sont les questions de recherche les plus pressantes dans le domaine du cauchemar? Il faut identifier les traits de personnalité qui rendent les personnes plus susceptibles au cauchemar, indépendamment des traumatismes. Il semble s'agir d'un problème de traitement des émotions. Quand on est plus négatif face à ses propres émotions, ce qu'on appelle névrose, il n'y a plus de cauchemar. M. Kelly s'intéresse aux cauchemars depuis 20 ans parce qu'ils ont un impact important sur la qualité du sommeil. Et si on ne dort pas bien, il est plus difficile d'avoir une bonne santé psychologique, dit-il. Sa dernière étude sur le sujet, publiée fin 2024 dans la revue Imagination, Cognition and Personality, a conclu que les cauchemars surviennent plus souvent chez les gens inhibés, évitant l'attachement affectif et ayant des symptômes traumatiques. En savoir plus. Source: Sleep. 1,7 fois plus, proportion des enfants hyperactifs qui ont des cauchemars chaque semaine par rapport à la moyenne. 1,6 fois plus, proportion des enfants ayant de la difficulté à l'école qui ont des cauchemars chaque semaine par rapport à la moyenne. C'était « Quelle est la cause des cauchemars? » un texte de Mathieu Perrault, paru le 21 juin 2026 dans la presse.
Les personnes lésées médulaires à l'hôpital, soignées avec considération pour prévenir les complications. Un texte de Vanessa Anne Paré, coordinatrice du service d'intégration sociale, paru dans la revue Paraquad numéro 170, été 2026. De novembre 2025 à mars 2026, Mémo Québec a travaillé en collaboration étroite avec la Direction médicale et des services professionnels du CIUS de l'Est de l'île de Montréal pour développer une conférence qui vise à sensibiliser le personnel de soins à l'importance de répondre aux besoins des personnes lésées médulaires à l'hôpital. Elle porte sur les principaux enjeux à l'origine de la prise en charge inadéquate de ces usagers, à savoir la méconnaissance des besoins, le manque d'écoute du personnel, le manque d'équipement ou d'aide pour faciliter les transferts, l'application inégale des protocoles de prévention et de traitement des plaies de pression, le non-respect des routines de soins d'élimination et la méconnaissance de la dysréflexie autonome. Le message central insiste sur l'importance de considérer l'usager lésé médulaire comme expert de sa condition, d'écouter ses demandes et d'offrir une réponse adéquate et rapide aux besoins nommés. Le courage de porter plainte, ça peut mener loin. À l'origine de cette collaboration, il y a eu un acte de courage. Arnaldo Romero Garcia, membre de Mémo Québec, a développé une plaie de pression à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont après avoir passé 2 jours sur une civière dure en novembre 2024. Avec le soutien du service de défense des droits de Mémo Québec, il a accepté de porter plainte. Alexandrine Côté, commissaire aux plaintes pour le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, s'est montrée empathique et proactive tout au long des démarches. C'est à la suite du dépôt de son rapport que nous avons été contactés pour ce projet. Sensibiliser le personnel hospitalier, une personne à la fois. Les 24 et 31 mars 2026, dans le cadre des rendez-vous de la médecine et de la médecine spécialisée, Nathalie Michaud, Mark Beggs et Vanessa Anne Paré ont présenté à 4 reprises la conférence intitulée « Les personnes lésées médulaires en milieu hospitalier, soignées avec considération pour prévenir les complications » aux équipes de soins infirmiers et de préposés aux bénéficiaires des hôpitaux Maisonneuve-Rosemont et Santa Cabrini du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. En tout, 179 personnes ont assisté aux conférences. Les échos que nous en avons eus nous indiquent que nous avons atteint notre objectif de sensibilisation. Un électrochoc nécessaire. Ça nous a ouvert les yeux. Ça devrait être une formation obligatoire. Il faudrait l'inclure à la formation des futurs infirmiers et infirmières. Voilà quelques-uns des propos qui nous ont été rapportés. Nous saluons l'apport de Claude Labelle et Samuel Bilodeau, membres de Mémo Québec, qui ont accepté de livrer un témoignage à titre de patient partenaire dans lesquels ils relatent leurs expériences traumatisantes à l'hôpital. Des extraits de leurs entrevues ont été intégrés à la présentation en appui aux éléments didactiques. Mentionnons également l'apport, à titre posthume, de Normand Meunier et de son épouse Sylvie Brosseau. La séquence tragique des événements qui a mené au décès précoce de M. Meunier a été présentée en introduction à la conférence. Nous avons insisté sur le fait que le coroner, Maître Dave Kimpton, dans son rapport issu d'une enquête publique indépendante, a indiqué que ce décès aurait pu être évité si les protocoles avaient été respectés. Des témoignages percutants. Voici quelques extraits des témoignages de Samuel Bilodeau et Claude Labelle qui ont particulièrement touché les gens. Ces derniers ont été résumés pour les fins de cet article. Citation. Je n'avais pas de surface thérapeutique à l'urgence. Après ça, j'ai été montée à l'étage et ça a pris au moins 2 jours pour que j'en aie une. Fin de citation. Citation. J'étais tellement écœurée d'être dans le système de la santé à l'hôpital. Je voulais être chez moi. J'avais mon jeune garçon devant moi et je n'ai pas su garder mon sang-froid. J'ai dit à la docteure à l'urgence, « Je veux l'aide à mourir. » Il faut toujours se battre, tout le temps. Ce n'est pas une vie. Ma femme ne le savait pas que j'avais demandé ça. Elle a pété une méchante crise quand elle l'a appris. Juste à y penser, ça me rend émotif parce que ça a été un grand coup. Je suis revenue sur ma décision, mais honnêtement, toutes les fois que je dois aller à l'hôpital, j'attends jusqu'à la dernière minute. Fin de citation. Citation. 4 heures plus tard, je sonne, je demande d'être tournée. On me répond. Mais ce n'est pas juste la nuit, ça? Je dis. Ben non, c'est tout le temps parce que je suis en contact avec le lit. Et on me répond. Ben, vous n'êtes pas le seul ici, là. C'est dégueulasse de se faire dire ça. C'est vraiment insultant. Fin de citation. Citation. Si on ne peut pas aller à la toilette, on dépend des infirmières et des infirmiers. Le message que je veux passer, ça serait vraiment le fun qu'on l'entende partout. Du 26 décembre dernier au 2 janvier, je ne suis pas allée à la selle. J'avais mes 3 repas par jour. Rendu au 6e jour, le médecin ne comprend pas pourquoi j'ai des douleurs au ventre. Je lui dis « Je sens mon bas de ventre » et il me répond « Mais vous ne sentez rien en bas des seins, alors comment vous pouvez sentir votre ventre? » Je ne peux pas vous l'expliquer, mais je sens que j'ai mal au ventre. Il tâte mon ventre et constate qu'il est drôlement dur. C'est quand la dernière fois que vous avez eu des selles? Le 22. Fin de citation. Citation. La dysréflexie autonome, c'est quand même important parce que ça devient dangereux vite. Dans mon cas, dès que quelque chose me perturbe en dessous de ma lésion, ça va faire fluctuer ma pression. J'ai vu tous les chiffres. J'ai déjà vu du 240 et je suis pas mal sûre que j'ai vu plus. Un exemple lors d'une autre hospitalisation. Je savais que ma vessie était pleine. J'avais fait un faux trajet en mettant ma sonde. J'avais déjà une grosse envie, mais après ça, je n'étais plus capable de vider ma vessie. Arrivé à l'hôpital, avec la pression full haute, c'était rendu que ça devait faire mal, sauf que ce n'était pas dans leur ordre de priorité. Je leur disais, il faut juste que quelqu'un me fasse un cathétérisme et ça va s'arrêter. Ça a été long avant qu'ils le fassent. Après ça, je suis retournée chez moi, tout a été correct. Fin de citation. Citation. Ça prendrait un protocole. Si dans ton dossier il est écrit « blessé médulaire », c'est ça qu'il faut faire, comme un diabétique. Un diabétique, il rentre à l'hôpital, on n'oubliera pas de le piquer à l'insuline, sinon c'est une faute grave. Fin de citation. Une conférence qui pourra être suivie par tout le réseau de la santé. Grâce au travail acharné de l'équipe de la Direction médicale et des services professionnels du CIUS, la conférence qui a été enregistrée sera déposé prochainement sur l'environnement numérique d'apprentissage, ENA, provincial, ce qui permettra au personnel médical de l'ensemble des 6 ISUS du Québec de la suivre. Des crédits de formation seront offerts, ce qui représentera un incitatif additionnel. Des changements concrets. La volonté d'apporter un changement durable, porté par la Direction médicale et des services professionnels du CIUS, ne se limite pas aux conférences. Voici les prochaines actions prévues afin de respecter les recommandations du rapport de la commissaire aux plaintes. Modification des actes de prescription afin de permettre aux infirmières ASI, assistantes aux supérieurs immédiats, de prescrire un matelas thérapeutique dès l'admission d'un usager à risque de plaie de pression. Actuellement, seuls les ergothérapeutes et les infirmiers et infirmières stomothérapeutes ont l'autorisation de prescrire des surfaces thérapeutiques au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, ce qui ralentit considérablement le processus au point d'entraîner parfois des délais de quelques jours, alors qu'on sait très bien qu'une plaie de pression peut se développer au bout de 2 heures de pression continue, voire moins. Disponibilité en inventaire de matelas thérapeutiques et mise en place d'éléments qui permettront d'accélérer le processus de commande auprès du fournisseur. Élaboration d'un savoir-stat sur les lésions médulaires, soit un document d'une page qui reprend les principaux points de vigilance à observer. Celui-ci est présenté aux équipes de soins et rendu disponible sur place. Mise en place d'un protocole de prise en charge des usagers lésés médulaires en milieu hospitalier. Des alliés qui font la différence. Le réseau de la santé est parfois comparé à un mastodonte inaccessible, ce qu'il est, hélas, bien souvent. Pourtant, différentes personnes qui y travaillent ont à cœur d'améliorer la qualité des soins offerts sur le plan clinique et humain. Nous tenons à souligner la disponibilité, la volonté et la bienveillance de l'équipe de la Direction médicale et des services professionnels du CIUS avec qui nous avons collaboré sur ce projet, à savoir Steve Gauthier, Ali Marie-Pierre Mollois, Gabriel Grenier et Isabelle Girard. Lorsque des personnes clés partagent une vision et des valeurs qui placent le bien-être de l'usager au centre de leurs préoccupations, elles peuvent faire toute la différence. La commissaire aux plaintes du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, Alexandrine Côté, a d'ailleurs salué notre collaboration. Et après? Au fil des mois, d'autres collaborations se dessinent notamment avec l'Ordre des ergothérapeutes du Québec ainsi qu'avec le programme de baccalauréat en soins infirmiers de l'UQAM. De plus, une présentation qui s'inspire de cette conférence a été offerte le 7 avril à une équipe de gestionnaires de la Direction des soins infirmiers de l'hôpital de Saint-Eustache du CIS des Laurentides à la suite d'une plainte d'un usager lésé médulaire, membre de Mémo Québec. Nous tempérons tout de même notre enthousiasme, car nous savons qu'il n'y aura pas de changement de culture durable tant et aussi longtemps que chaque maillon de la chaîne de soins, chacun, tout aussi important que le précédent, des médecins spécialistes aux préposés aux bénéficiaires, ne changera pas son approche quant à la prise en charge des usagers lésés médulaires. Cette collaboration n'est donc que le premier pas d'un changement que nous espérons pérenne. C'était les personnes lésées médulaires à l'hôpital, soignées avec considération pour prévenir les complications. Un texte de Vanessa Anne Paré, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026.
Santé Québec, où est le social? Une lettre ouverte de Denis Bourque et Valérie Fernandez parue le 26 juin 2026 dans Le Devoir. Denis Bourque est professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Valérie Fernandez est travailleuse sociale et présidente de l'OTST-CFQ, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Il co-signe ce texte avec une dizaine d'autres experts. Depuis le 15 juin 2026, les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, CIUS, changent de nom pour Santé Québec, suivi du nom du territoire et du centre universitaire le cas échéant. Il s'agit de la dernière illustration de l'invisibilité et de la marginalisation croissante du social dans un système public dont l'originalité à sa création était l'intégration du social et du sanitaire pour une meilleure réponse aux besoins des populations et des communautés territoriales. Au cours des 50 dernières années, c'est largement l'amélioration des conditions et des milieux de vie qui a généré les principaux gains en santé pour les populations, et non les soins médicaux eux-mêmes. Ces avancées ont été, pour beaucoup, le fruit du travail engagé des acteurs et actrices du travail social et de l'action communautaire. Malheureusement, ces acquis collectifs sont mis à mal par les choix politiques des récents gouvernements. Les crises auxquelles fait face le Québec actuellement sont avant tout sociales. Les problèmes à la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, en santé mentale, en soutien aux besoins criants des personnes âgées et en itinérance, ainsi que l'explosion des souffrances liées au coût de la vie, à l'exclusion sociale, à la crise du logement, aux effets des changements climatiques et aux violences faites aux femmes, ne sont que quelques-unes des réalités qui exigent que le social soit priorisé et valorisé. La création de l'Agence Santé Québec elle-même illustre le faible poids du social et de la prévention par rapport à la santé et au curatif. Les préoccupations et recommandations en provenance du domaine social et communautaire ont été peu prises en compte relativement à la centralisation excessive, au recul démocratique de la gouvernance du système socio-sanitaire et à la privatisation des services. La sous-représentation des services sociaux au sein de son conseil d'administration et jusque dans le nom même de l'agence suscite de vives préoccupations. Ce silence institutionnel met en lumière un manque d'arrimage entre les réalités sociales des populations et les services offerts, qui menace ainsi l'accessibilité et l'adaptabilité des services répondant aux besoins diversifiés des communautés. Le travail social et l'intervention sociale en général relèvent du ministère de la Santé et des services sociaux, où on observe une réduction progressive de la mission sociale au profit de l'hospitalocentrisme alimenté par les réformes successives Couillard en 2003, Barrett en 2014 et Dubé en 2023, auxquels s'ajoutent les effets attestés de l'approche managériale et comptable de la nouvelle gestion publique. Ces choix ont entraîné la diminution des interventions sociales conduites dans les milieux de vie, comme celles en milieu scolaire, qui ont décru de 41% en 5 ans, alors que celles menées à l'intérieur des murs des CLSC ont augmenté de 22% pendant la même période, selon la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Une nouvelle coalition nationale, Pacte social. Pour sortir du marasme actuel, une coalition nationale est mise sur pied pour revaloriser les services sociaux et communautaires, ainsi que le travail social et l'intervention sociale dans la société québécoise. La nouvelle coalition se nomme Pacte social et rassemble des voix engagées autour d'une vision élargie du travail social et des politiques sociales qui dépasse le cadre strict du titre professionnel pour englober l'ensemble des pratiques d'intervention sociale. Elle reconnaît que de nombreuses personnes œuvrent quotidiennement au mieux-être des populations et des communautés, souvent dans l'ombre, sans que leur contribution soit pleinement reconnue et maximisée. Il est temps de reconnaître l'impact réel du travail social sur notre société et d'augmenter ses effets systémiques. Les personnes travailleuses sociales et intervenantes sociales jouent un rôle essentiel dans la prévention, la cohésion sociale, l'accompagnement et la transformation des conditions de vie. Une juste reconnaissance de leur apport est non seulement nécessaire, mais urgente, afin de valoriser leur expertise, de soutenir leur engagement et de renforcer les services offerts à la population. Cette mobilisation qui s'inscrit dans la foulée des États généraux du travail social s'ajoute aux actions citoyennes et professionnelles de plus en plus nombreuses au Québec. Ensemble, ces initiatives rappellent aux élus l'importance de reconnaître le rôle crucial du travail social et des services sociaux dans notre société. Il faut donc réintroduire le social dans le nom des établissements publics et surtout réinvestir dans les services sociaux et l'action communautaire au Québec. C'était Santé Québec. Où est le social? Une lettre ouverte de Denis Bourque et Valérie Fernandez, parue le 26 juin 2026 dans Le Devoir.
Un homme violent envers sa compagne est interdit d'entrer dans deux municipalités. Un texte de La Presse canadienne, paru le 17 juin 2026 sur le site ICI, Terre-Neuve et Labrador. Un juge a interdit à un homme de se rendre dans deux localités de l'ouest de Terre-Neuve dans le cadre d'une ordonnance de probation, car il craint que cet homme ne porte gravement atteinte à son ancienne compagne. Dans une décision écrite, le juge Wayne Gorman, de la Cour provinciale, reconnaît que le bannissement a une longue et terrible histoire dans notre common law. Toutefois, le juge Gorman a précisé que l'homme a ignoré les ordonnances lui enjoignant de rester à l'écart de la femme et que le bannissement pourrait être le seul moyen de protéger les victimes d'un comportement effrayant, persistant et obsessif. Ces commentaires figuraient dans une décision sur la peine datée du 12 juin concernant un homme reconnu coupable de 7 infractions, y compris 2 commises à l'encontre de son ancienne partenaire dont le nom n'est pas divulgué dans le document. L'homme, identifié uniquement par les lettres DM dans la décision du juge Gorman, a plaidé coupable des infractions, parmi lesquelles figuraient le harcèlement criminel, les menaces et 2 violations d'une ordonnance de mise en liberté conditionnelle lui imposant de rester à l'écart de la femme. Le juge a condamné l'homme à 12 mois de prison et à 3 ans de liberté conditionnelle, assorti de la condition de ne pas pénétrer dans 2 localités sans l'autorisation écrite d'un agent de probation. Ce n'était ni la première condamnation, ni la première peine prononcée à l'encontre de cet homme pour des crimes impliquant son ancienne compagne. Le juge Gorman a précisé qu'il l'avait condamné l'année dernière à 9 mois de prison pour une agression extrêmement violente contre la femme et pour avoir enfreint les ordonnances lui interdisant de s'approcher d'elle et de ses filles. Cette peine et la mesure de probation qui l'accompagnait n'ont pas protégé la femme ni ses filles, a écrit le juge Gorman. Les ordonnances judiciaires ultérieures n'ont eu aucun effet sur les agissements de DM. Cette persistance est effrayante et nous ne devons pas ignorer ce que notre expérience nous enseigne quant à la tournure que cela pourrait prendre. C'était « Un homme violent envers sa compagne est interdit d'entrer dans 2 municipalités ». Un texte de La Presse canadienne, paru le 17 juin 2026 sur le site ICI Terre-Neuve et Labrador.